rétrospectif.
Du sud de l'Eure jusqu'aux portes de Rouen.
Sur le DAB+. Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI, les midis à Paris, 10h, temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, une victoire large, massive, reconnue par Viktor Orban. Le parti de Péter Madiar l'emporte largement en Hongrie avec plus de 2/3 des sièges au Parlement, ce qui va lui permettre, dit-il, de restaurer un état de droit européen. Victoire saluée en Ukraine, bien soulagée de se débarrasser d'un proche du Kremlin. Focus sur la France aussi dans ce journal avec Raphaël Delvolvé où la réaction du Rassemblement National, soutien de Viktor Orban, était scruté de près. Blocus contre blocus, le Moyen-Orient dans l'attente de la mise en place du blocage américain du détroit d'Ormuz. L'Iran dénonce un acte de piraterie. Une trêve bien fragile qui exclut le front libanais alors que pourtant des discussions vont avoir lieu sur ce sujet à Washington demain. Reportage à Beyrouth, toujours sidéré par les frappes meurtrières israéliennes du 8 avril. La victoire est large et elle est historique. Après 16 ans de pouvoir, l'illibéral Viktor Orban a été largement battu en Hongrie. Il l'a reconnu très rapidement hier. Le conservateur Péter Madiar l'emporte haut la main avec plus de 53% des voix, se félicite d'avoir libéré la Hongrie du régime Orban et promet de réconcilier Budapest et les institutions européennes. En Ukraine, ces élections hongroises étaient suivies avec attention entre blocage du prêt de 90 milliards de de l'Union européenne par Viktor Orban et diplomatie plus que tendue, c'est le soulagement qui domine à Kiev. Emmanuel Chaz.
En Ukraine, les réactions n'ont pas tardé à abonder après la victoire du parti de Péter Madiar. Le président Volodymyr Zelensky l'a félicité pour une victoire éclatante et souhaite qu'une approche constructive l'emporte. Il rappelle que l'Ukraine recherche des relations de bon voisinage avec tous les pays européens. Pour la première ministre Yulia Sviridenko, ce résultat est un non clair de la population hongroise à toute tentative de remettre leur pays dans l'orbite de Moscou et un échec clair pour la Russie de saper la démocratie, la liberté et les valeurs de l'Europe. Enfin, le ministre des Affaires étrangères, Andrii Sibiya, a mis l'accent sur une victoire lors d'élections libres, transparentes et historiques pour la Hongrie. Ce matin, Andrii Sibiya annonce également que son ministère a levé ses recommandations aux Ukrainiens d'éviter de voyager en Hongrie. Recommandations en place depuis début mars et la détention de 7 convoyeurs de fonds ukrainiens par Budapest. Il en appelle à des relations apaisées, tant sur le plan diplomatique que politique. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La large victoire de Péter Madiar en Hongrie lui donne les coudées franches au Parlement pour imprimer sa marque. Son son parti Tissa remporte la majorité des 2/3 des sièges permettant de modifier la constitution. Réaction enthousiaste à Bruxelles. La présidente de la commission Ursula von der Leyen s'est réjouie que la Hongrie ait choisi l'Europe. Message de félicitations du Polonais Donald Tusk qui a ajouté en hongrois « Les Russes, rentrez chez vous » en référence aux amitiés de Viktor Orban avec Vladimir Poutine. Victoire saluée aussi par l'Allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron. Voilà donc pour les élections en Hongrie. L'actualité internationale également dominée par la situation au Moyen-Orient, l'Iran dénonce un acte de piraterie des États-Unis. Téhéran avertit qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés après le nouveau coup de poker de Donald Trump. Après l'échec des négociations à Islamabad, le président américain est bien déterminé à son tour à imposer un blocus dans le détroit d'Ormuz pour tous les bateaux arrivant ou quittant l'Iran. Ce blocus doit entrer en vigueur cet après-midi à 14h, temps universel. Une perspective qui a fait rebondir les prix du pétrole. Le baril a directement commencé la semaine au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars. Au Liban, deuxième terrain principal de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent. Israël ayant soutenu que ce front n'était pas inclus dans la décision de cesser le feu. Le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort de 4 personnes après une frappe israélienne sur une localité du sud du pays. Le Hezbollah pro-iranien affirme avoir, lui, lancé des roquettes sur le nord de l'État hébreu, même si un calme précaire s'est installé à Beyrouth depuis quelques jours. Depuis des frappes les plus meurtrières qu'a connues la capitale depuis le début de cette guerre le 8 avril dernier, avec au moins 350 morts et 2000 blessés, le traumatisme est profond, comme l'ont constaté Abla Junaidi et Jad El Khoury.
Bonjour.
Jemaïzé, centre des nuits beyroutines, n'est plus ce qu'il était. C'est dans un quartier quasiment sans vie que nous retrouvons Fadi, chez lui. Le choc du 8 avril est passé par là.
J'ai vécu toutes les guerres au Liban. J'ai senti une nouvelle peur. Je suis en train d'éviter de sortir s'il n'y a pas une nécessité.
La peur s'instille partout. Si lui a à plusieurs reprises accueilli des amis déplacés du sud du Liban, une famille de confession chiite a dû quitter l'immeuble de ce quartier à majorité chrétienne.
Des voisins, ils ont gentiment demandé de quitter. Et c'est triste. Et déjà, il y a cette fissure entre le peuple libanais. Maintenant, cette fissure, elle est presque comme une grande vallée.
Fadi en veut à une classe politique aux commandes depuis 3 décennies, à commencer par le Hezbollah, allié de l'Iran.
Le grand problème, ça fait une bonne quinzaine d'années, du Liban, c'est l'existence d'une entité qui est libanaise de passeport, mais qui n'est pas libanaise d'âme, je suis désolé, et qui n'est pas en train de défendre la cause libanaise, mais en train de défendre une autre cause.
Lui a un passeport français, mais il n'entend pas partir. Faute de changer les choses, dit-il, ma responsabilité est au moins de rester ici. Abla Junaidi, Jad El Khoury, Beyrouth, RFI.
Malgré tout, des pourparlers sont toujours prévus demain à Washington entre des représentants libanais et américains. Léon XIV est arrivé en Algérie, un voyage historique, c'est la première d'un pape dans ce pays où l'islam est religion d'État. Pour continuer, dit le pape, à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman, l'Algérie est la première étape d'une tournée pontificale de 11 jours en Afrique qui le conduira au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. La récente allocution anti-guerre de Léon XIV lui a valu hier soir une diatribe de Donald Trump qui s'était senti visé par son discours. En France, le Sénat doit examiner le projet de loi sur la justice criminelle présenté par Gérald Darmanin. Ce texte prévoit notamment l'instauration d'une procédure de plaider coupable en matière criminelle sous réserve d'acceptation par les parties, avec des procès qui pourraient être ramenés à une demi-journée sans témoins ni experts, dans le but de réduire les délais d'attente et de désengorger les juridictions. Mais ce projet de loi ne répond pas aux demandes des victimes, assure une tribune dans Le Monde, signée notamment par la Fondation des femmes et rédigée par l'avocate Anne-Sophie Laguins.
Premièrement, la victime n'aura qu'un temps réduit pour s'opposer à cette procédure, mais il ne faut pas oublier que certaines victimes n'ont pas d'avocat, elles ne sauront pas forcément comment réagir et c'est un temps très court pour elles. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que cette procédure est acceptée, on ne peut pas revenir en arrière et on n'aura pas de débat avec les experts, avec les enquêteurs de personnalité sur le pourquoi du comment. Or, c'est des audiences qui sont importantes. Quand on fait tout ce chemin de déposer plainte, d'être entendu, réentendu, confronté, une fois qu'on a fait tout ça, on a des victimes qui nous demandent mais quand est-ce qu'on va avoir un procès ? Pas quand est-ce qu'on va avoir une peine. Les victimes, elles sont pour la plupart pas en attente d'une peine. La plupart d'entre elles veulent premièrement que ça ne recommence pas et protéger les autres femmes. Et deuxièmement, essayer de comprendre et d'être confrontée pour pouvoir avoir une vraie prise de conscience. Parce que l'enjeu, c'est toujours ça derrière. C'est que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, le travail qui sera fait après sur la peine, parce que la peine, ce n'est pas que l'incarcération, c'est aussi, heureusement, un travail de réinsertion. Ce travail, il aura du mal à débuter si on n'a pas bien pris conscience au moment de la condamnation de pourquoi on est condamné et quel est le sens de cette condamnation.
Le jugement pour le cimentier Lafarge est attendu aujourd'hui, première multinationale à être jugée pour financement de terrorisme. 8 de ses anciens responsables sont accusés d'avoir versé, via la filiale syrienne du groupe, plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont le groupe État islamique en 2013 et 2014, des versements pour pouvoir maintenir l'activité d'une cimenterie à Jabalia, en pleine guerre en Syrie, pour préserver ses intérêts économiques, alors que les autres multinationales avaient quitté le pays. Enfin, au Pérou, la candidate de droite, Keiko Fujimori, est en tête d'un premier tour de la présidentielle chaotique qui s'est tenue hier et qui va se poursuivre aujourd'hui. Un scrutin marqué par de graves perturbations logistiques et des accusations de fraude. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide. Bonjour, Emmanuel.
Je suis bien là. Bonjour, Karine Bellichat. Prochain journal dans 50 minutes. Et chez 8 milliards de voisins, nous allons voir comment la ville transforme les corps.
Le prix théâtre RFI.
Tu es une autrice de théâtre, un auteur de théâtre. Tu as une parole à faire entendre.
le récepteur.
Vous écoutez Principe Actif.
Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Se déplace plus, il est juste pilier rigide dans les cités livides, belle statue, immobile, chahut inaudible sur solide raffut, marque la rue comme un immense fossile. L'être humain de nuit attire loustique et déchet, comme le réverbère attire les moustiques l'été. La lumière n'est pas lumière rêvée, plutôt blessée, éclaire les pieds d'humain à la tête haute, à la casquette baissée. Si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adossent avec une des deux jambes pliées. Témoin du quartier, des rires et des douleurs, et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters. Bandit à l'allure de bandit, proche des mioches qui grandissent, ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit. Celui-ci est complice du tapage, du grand bruit, quand il vibre comme un gosse à l'âge qui resplendit. Le réverbère, c'est l'ancien des villes, le témoin. Il a vu chaque couche sur HLM 10 fois repeint. Donc le point commun, le vrai, c'est l'étroitesse du destin. Le monde est vaste, mais on représente l'espace restreint. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les cités livides où la lumière ne passe plus. plus. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les palais livides où la lumière ne passe plus. Les gens ne sont pas reconnaissants, pissent sur les réverbères alors que la nuit lui demande le fluorescent. Ne sont point reconnaissants, ignorent l'humain indécent alors que la nuit lui quémande le stupéfiant. L'être humain et le réverbère sont complices de l'ingratitude, d'où cette attitude, droit et fier par habitude. La rue qu'il surveille de haut les rend droits pour l'altitude, mais la tête penche vers le sol par lassitude. Pour l'être humain et le réverbère, l'univers s'arrête à quelques rues qu'il connaisse dans l'affinité de sa banalité à ses pires activités. L'hiver et son acidité, l'été et son aridité. La richesse n'invite pas au voyage, les beaux quartiers leur beauté montrent un horizon tout aussi bétonné. Car l'habitude et la routine rend l'humain statue, loin des sables mouvants, plus proche d'une terre battue. Le propriétaire terrien fait du ciment son grain, fait de la rue d'à côté sa vie, sa racine, son bien. Donc le point commun, le vrai, c'est l'étroitesse du destin. Le monde est vaste mais on représente l'espace restreint. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les cités livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les palais livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les cités livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les palais livides où la lumière ne passe plus.
Mom and dad make a prayer cause their son's against the wall. Mom and dad make a prayer for their son's against the wall. Won't lie about it, ain't no life for the kid.
Against the wall.